Je vais d'abord vous donner quelques conseils avant d'appréhender le sujet. Il va de soi que la sagesse éternelle nous invite à n'accepter jamais que ce qui nous convient. Sur ce chemin, puisque en fait c'est le terme qui a été utilisé par chacun, ce qui est normal, puisqu'en fait l'être est un éternel pèlerin dès l'instant où il est à la recherche de la réalité, cette invitation à n'accepter que ce qui nous convient, si vous voulez, c'est le principe même de la quête de la liberté en majuscule. Il serait aventureux d'accepter de qui que ce soit, fût-il du plus grand guide, les éléments donnés, ces éléments nous demandent réflexion et attente. C'est la première des choses. Dans ce processus de quête de la liberté, puisqu'en fait c'est le chemin qu'entreprend le pèlerin, il faut savoir que l'histoire de l'humanité pèse sur cette réalisation. Et la mémoire très ancienne nous dit que, en son temps, Adam et Ève ont été chassés du paradis. Bien sûr, c'est une métaphore. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans ce terme Adam et Ève, les anciens désignaient une appellation générique qui était la désignation de l'humanité encore terrestre, c'est-à-dire sexuée. Et ça n'était pas du tout deux personnes, un couple. Qu'est-ce que cela recouvre, d'autant que, à la suite de ça, il a été dit, l'homme a été jeté dans les ténèbres. Ce qu'il faut savoir de l'histoire très ancienne, c'est que la vie déroule un chemin éternel d'évolution. Et comme il vous sera donné dans le cours suivant, l'origine de la vie, à savoir l'absolu, je ferai une parenthèse rapide sur ce sujet en vous disant qu'il n'y a une seule réalité qui n'a ni origine, ni fin, ni cause, que l'être humain, le mental humain ne peut appréhender ou désigner que par le terme le plus simple, l'absolu, peu importe la coloration qu'on lui donnera, c'est-à-dire Dieu, Allah, la vie, l'énergie, peu importe. Cette réalité, dans son absolue conscience, a considéré, premier postulat, qu'il n'y a aucune gloire à être cela. Deuxième postulat, la vie va, donc l'absolu, va émettre des vagues de vie qui vont devenir des éternels pèlerins. Donc l'évolution au mérite. Troisième postulat, les vies plus avancées incluront dans leur manifestation les vies plus jeunes. Alors, de ce fait, vous avez les vagues de vie qui partent dans les règnes microcosmiques, puis les vies vont traverser les règnes de la nature, poursuivre leur évolution au-delà du quatrième règne qui est le règne humain, pour appréhender le règne spirituel, le règne divin et les évolutions cosmiques. Ce qui veut dire que l'évolution de la vie ne s'arrête jamais. Et là, vous avez un processus à l'infini. En vous précisant que l'infini, ça a un point de départ et un point d'arrivée. Et que l'infini est donc une notion relative. Ce qu'il faut quand même saisir pour bien distinguer la nuance entre l'absolu et toute la manifestation des vies, c'est, en image comparative, le silence qui est le père-mère de tous les sons. Tout émane du silence, tout retourne au silence, mais par définition fondamentale, le silence ne peut rien avoir avec les sons. Juste de cette comparaison, si vous voulez, pour bien vous faire apparaître que l'absolu ce qui sera développé plus précisément dans le cours suivant, l'absolu, ce n'est pas un être, c'est l'être T. Ce n'est pas relatif, c'est-à-dire c'est la conscience absolue ou le mouvement absolu. C'est l'espace abstrait absolu. Et c'est la durée. Mais vous voyez bien, en comparant un peu simplement avec la notion du silence, hein, le fait que ben, le silence, il est de toute éternité, il n'a eu ni commencement ni fin. Le principe de l'absolu que j'ai évoqué, c'est les vies plus avancées incluront dans leur manifestation les vies plus jeunes. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que la manifestation de la vie va impliquer une vie centrale et des vies plus jeunes. Ce qui va faire apparaître un composite de vie. Ce que je vais essayer de vous faire appréhender, c'est le fait que l'être humain, la vie au stade humain, implique une vie centrale qui prend en charge l'évolution de myriades de vies mineures qui constituent nos corps. Ce qui veut dire que notre corps physique est constitué de myriades de vies mineures qui vont se traduire par des appétits physiques. Puis de myriades de vies mineures qui constituent notre corps émotionnel et qui vont constituer le monde de passions et de pulsions émotionnelles. Puis notre corps mental constitué de myriades de vies, formes pensées, que nous avons accueilli dans la traversée du règne humain qui a été la nôtre. Cette approche est fondamentale parce que cela permet de distinguer l'être que nous sommes en réalité par rapport à l'apparence que l'on peut en saisir. Que devons-nous appréhender au niveau d'une vie? Une vie va donc avoir sa racine de vie dans l'absolu. Elle va avoir une conscience, elle va avoir une forme. Toute vie qui se manifeste à quelque niveau que ce soit aura une racine de vie, un niveau de conscience, qui ne veut pas dire soit conscience, hein, et une forme, ce qui veut dire que dès l'instant où vous avez un atome, eh bien cet atome a un noyau, un champ de conscience et un cercle de manifestation. L'être humain est une unité centrale qui a une racine de vie dans l'absolu, qui a une unité de conscience qu'on appelle l'âme et qui traverse le règne humain et un des véhicules de manifestation, corps physique, corps éthérique, corps émotionnel, corps mental et au-delà, corps subtil. Ce qui est important, c'est d'appréhender cette distinction parce que cela nous fait apparaître ce qui est notre réalité par rapport à ce qui est notre chantier en réalisation. Ce qui veut dire qu'il y a notre être, notre soi, et le non-être, le non-soi, c'est-à-dire les vies que nous avons en charge. Notre corps, nos corps sont des mondes en charge. Bien évidemment, ces mondes sont faits de toutes les vies mineures que nous avons accueillies, de vie en vie. Et ils sont représentatifs de l'état relatif de notre réalisation vers la perfection. Ce qui veut dire que la vie qui rentre dans le règne humain sort du règne animal, quand les portes sont ouvertes du règne humain. À l'entrée, il va être l'homme animal. À la porte de sortie, il sera le sage. Et l'âme, cet être permanent, va régulièrement se projeter dans son chantier qui est toutes les vies mineures qu'il prend en charge et qu'il a décidé à son niveau de les amener au point de départ où il en était quand il est rentré dans le règne humain. Ce processus se répète à l'infini. Ce qui veut dire qu'une vie passée il y a des milliards d'années par le règne humain, aujourd'hui dans son évolution cosmique, a en charge toutes les vies qui sont sur les corps de cette planète. Et son contrat de vie vis-à-vis de l'absolu, c'est d'amener chaque règne à la progression attendue pour que les vies poursuivent le chemin d'évolution à tout jamais. Vous ayant évoqué cela, je vais retourner maintenant au point de départ, c'est-à-dire l'histoire de notre humanité. Avant que Adam et Ève aient chuté, donc notre humanité, avant que cette humanité ne fût jetée dans les ténèbres, il faut savoir que le processus naturel de toute l'évolution des vies fait que lorsqu'une humanité se présente dans le règne humain et qu'elle arrive au plan terrestre, on verra ultérieurement que la vie en fait descend de plan de plus en plus, de plan haut, de plus en plus arrivé jusqu'au plan terrestre. Pourquoi le plan terrestre? Simplement pour pouvoir prendre en charge les vies mineures, très jeunes, qui pour l'instant fréquentent encore le corps dense planétaire, c'est-à-dire le monde minéral, le monde végétal, le monde animal. Quand une humanité se présente, elle est accompagnée par des êtres qui sont, eux, sortis du règne humain et dont leur contrat de vie est d'aider l'évolution des règnes de la nature sur le plan terrestre. Pendant des centaines de milliers d'années, ces guides ont soutenu la marche des hommes pour lentement mais sûrement progresser dans l'évolution du règne humain et notamment acquérir, développer le corps émotionnel, le corps physique, puis le corps émotionnel, puis le corps mental, et ainsi de suite. Pendant des centaines de milliers d'années, les hommes ont suivi sérieusement l'enseignement de ces grands êtres. Vint le temps où les guides ont confié aux hommes le savoir sacré de commander aux forces de la nature. Je fais une parenthèse pour bien distinguer les êtres humains et les forces de la nature. Si vous prenez la vie c'est de l'énergie et des centres d'énergie. Les centres d'énergie, minéral, végétal, animal, l'homme et les globes, l'évolution supérieure. L'énergie, c'est des souffles d'énergie que dans notre mémoire d'enfance, on a souvenir comme étant les gnomes, les elfes, les sylphides, les lutins, les anges, les archanges. En fait, quelle est la situation des deux? Le centre d'énergie, il a une racine de vie, il a un niveau de conscience et il a un véhicule. Les souffles d'énergie ont une racine de vie, un niveau de conscience et un souffle d'énergie. Quand les guides ont confié aux hommes le savoir divin de commander aux forces de la nature, ce qu'on appelait la langue sacrée, les êtres énergie manifestaient ce qui était demandé, C'est ce qu'aujourd'hui le main pourrait traduire, appeler en disant c'est un processus de miracle. Pendant des centaines de milliers d'années, les hommes ont fait un bon usage de ce savoir. L'homme ne travaillait pas, il demandait et les êtres énergie manifestaient, réalisaient. Puis vint un jour où les hommes, certains hommes, ont usé de ce savoir pour accumuler des biens, des richesses, et par là même se séparer du bien de l'ensemble. Les guides ont alerté en disant « Attention, vous utilisez ce savoir dans sa phase négative, destructrice. Si vous perdurez, vous allez attirer l'énergie de destruction cosmique et vous serez sanctionné. » Les hommes n'ont pas écouté. Les guides, maîtres de la manifestation, de leur manifestation, se sont retirés. Vous avez eu un déluge et l'homme s'est jeté dans les ténèbres. Il faut savoir que, en fait, l'être humain est maître de son destin. Ce qui veut dire qu'en son temps, en tant qu'être, il a perdu les facultés qui étaient les siennes et notamment liées à son corps énergétique, à savoir, avant qu'il ne fût jeté dans les ténèbres, l'homme connaissait la continuité de conscience. Ce qui veut dire qu'il quittait consciemment son corps physique et poursuivait en conscience sur les plans supérieurs qu'il avait atteints, il poursuivait consciemment son processus d'aventure humaine, à savoir il savait d'où il venait, qui il était et vers quoi il devait aller. Il voyait les êtres énergie, voyait les auras et par conséquent, il ne connaissait pas la mort au sens peur du terme. Quand il avait rempli son contrat dans un cycle de cette vie, eh bien, consciemment, il se retirait puisqu'il avait accompli son cycle. Depuis 12 000 ans, les hommes errent. De temps en temps, des guides sont venus individuellement sensibiliser telle ou telle partie de l'humanité. Autour de ces guides, s'est généré des religions. Avant, il n'y avait pas de religion. Le terme religion vient de religare, qui veut dire relier. Et de temps en temps, dans telle ou telle partie de l'humanité, un guide est venu pour donner une impulsion dans la bonne direction. Alors, pour faire bref, vous avez eu Krishna, qui est venu susciter les justes relations. Vous avez eu Gautama Buddha, qui lui a donné comme message essentiel à l'humanité « Cessez le désir qui est la cause des souffrances ». Vous avez eu le Christ qui est venu rappeler qu'il fallait pratiquer de justes relations. Vous avez eu Mahomet qui est venu de rappeler au peuple arabe qu'il fallait faire le combat sur soi-même, la djihad sur soi-même et pas sur les autres. Et que nous dit, il y a 2000 ans, le grand guide, il nous dit, pratiquez de justes relations pour que je puisse revenir. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce qu'aujourd'hui, il a en charge l'instruction de l'humanité. Ayant succédé à Gautama Buddha, qui était le précédent instructeur, il y a 2500 ans, et en fait, il invite les hommes à pratiquer de justes relations pour que les guides puissent revenir. Les guides savent pertinemment que s'ils ne peuvent pas réapparaître, revenir pour aider l'humanité, cette humanité est trop prise dans le négatif pour s'en sortir toute seule. Donc l'invitation il y a 2000 ans porte sur le fait de pratiquer de juste relation. Cela veut dire à ceux qui seront en réalisation de cet état, eh bien, le Christ dit, je suis l'épicentre de l'énergie d'amour. Et par conséquent, quand vous pratiquez de justes relations, vous utilisez l'énergie que je canalise, et par conséquent, quand vous le faites, je suis en vous et vous êtes en moi. Mais il faut comprendre qu'au niveau des guides, il n'y a aucune séparativité, qui est la seule erreur lourde. Il n'y a que l'unicité de la vie, c'est-à-dire la vie une dans ses myriades de manifestations. 12 000 ans se sont écoulés, l'homme est dans les ténèbres. Jusque-là, des êtres à travers le monde ont marché vers cette réalisation des justes relations. Et par là même, ils ressentaient la nature de leur être intérieur qui, qu'on appelle l'âme et qui, par définition, baigne dans cette énergie d'amour. Les guides ont suivi, aidé les êtres qui individuellement procédaient de la sorte. Il y a 2 siècles environ, ils ont convenu qu'aujourd'hui, beaucoup d'êtres étaient en chemin et, premièrement, ils ne pouvaient plus être suivis individuellement. Deuxièmement, le temps était venu de tenter le retour des guides. Pour ce faire, un être à la très grande sensitivité, aux facultés télépathiques très particulières, a été invité à recevoir du plan terrestre ce qu'était en son temps, au moment où il fut fermé, le livre de la connaissance, le livre de la sagesse et le livre de la vie. Cet être s'est appelé Elena Petrovna Blavatsky. Et elle a reçu, particularité, s'il est de l'auteur, elle n'est pas l'auteur de ses livres, au sens où elle a reçu en télépathie les éléments fondamentaux qu'elle a rassemblés dans ses livres. Et comme elle l'avait annoncé, elle serait suivie d'un autre être qui assurerait le même travail et qui fut Alice Bellé. Ces êtres ont travaillé sous l'impression des guides, et pour ceux qui savent un peu qui ils sont, ils ont travaillé sous l'impression bien sûr de Maitreya, mais de Kutumi, de Moria et de Djewalkul. Alors, ce qu'il faut retenir, si vous voulez, des deux auteurs, c'est que leur écrit est sous impression. Hein, il faut savoir, par exemple, que Bellé, quand elle ne comprenait pas un tableau, ça lui était écrit en lettres de lumière sur les murs. Alors, pour vous donner une petite parenthèse, mais vous compreniez un petit peu ce qu'il en était, ben, Bellé et Alice Bellé est issue de la gentry britannique, d'une très haute famille aristocratique anglaise. C'était une enfant turbulente, et quand elle était jeune, elle était très dissipée, et un jour qu'elle était dans le château familial, les parents partis à l'office, elle est dans un des salons et d'un seul coup, elle a la présence d'un être dans le salon. Elle se retourne et elle voit un personnage, un grand personnage, en turbané, la peau basanée, des yeux d'un bleu très profond, et qui l'interpelle en lui disant « Ma chère enfant, si vous continuez cette insouciance, vous ne pourrez jamais assumer ce qu'en son temps, en tant qu'être, vous avez choisi d'accomplir dans cette vie. » Il tourne les talons. Elle se ressaisit, elle court, elle appelle le personnel, le majordome, qui est venu, vous l'avez laissé rentrer. Personne, on n'a vu personne. On a vu personne. Bon. Alors elle se ressaisit, elle incorpore le service de santé de l'armée des Indes, elle se retrouve là-bas, et puis elle se marie, elle aura deux fille, et puis un jour elle voit dans un immeuble, elle voit le tableau du personnage, et elle dit, mais qui c'est ce... C'est le Mahatma Kutumi. Bon. Elle rentre en Angleterre, elle a dérogé aux règles familiales, elle s'est mariée sans le consentement ni le niveau, elle est rejetée par la famille, si bien que sans argent, elle fait la cacure, c'est-à-dire elle épluche du poisson sur un port anglais. Enfin, c'est pour vous montrer, comme on dit, la chute vertigineuse. Un jour, elle est très fatiguée, elle se retire sur la falaise derrière et puis elle se laisse aller dans l'herbe. Et d'un seul coup, elle entend une voix qui lui dit « Est-ce que vous accepteriez de travailler avec moi ?» Là, elle dit « Ça y est, là, maintenant j'entends des voix, dur. » Donc elle refuse. Et puis la voix continue « Soyez tranquille, je reprendrai contact avec vous. » 3 semaines plus tard, la voix revient « Avez-vous réfléchi ?»« Ah non, non, je ne veux rien entendre parler de tout ça. » Et la voix lui dit « Vous avez été impressionné par un personnage que vous avez vu. » Si vous entrez en contact par la pensée, vous saurez. Et le personnage de lui dire, eh bien, celui qui vous contacte est un de mes adjoints, il s'appelle Kutumi, il est tibétain, et il se propose de travailler avec vous. Voilà. Et elle a travaillé en télépathie, avec lui principalement, mais aussi avec Kutumi, et puis Maitreya de temps en temps, voilà. Et ils ont donc redonné la suite de ce que avait déjà fourni Blavatsky. Blavatsky, il faut lire sa vie, La Grande Illuminatrice et des livres sur elle. C'est une grande aventurière en majuscule. Alors, comme l'a dit Jewalkul, hein, puisque c'est des écrits ciblés qui ont couvert fin du 19e, début 20e, jusque dans les années 45, en fait, était essentiellement destiné, comme le disait Jewalkul, pour les êtres qui seraient en incarnation au-delà de 1975. Et comme le disait à ceux qui peinaient dans les livres à l'époque, j'écris pas pour vous, j'écris pour des êtres qui seront plus tard en incarnation. Alors, que faut-il retenir de ces livres? La première chose, c'est que ce sont les plus puissants somnifères qui soient. Si vous avez des problèmes de sommeil, il faut lire Bélé ou Blavatsky, étant entendu, si vous voulez, que ce sont des livres qui ont été magnétiquement verrouillés. Ce qui veut dire, un, que c'est à la lumière de compréhension de l'être que vous êtes qu'il vous sera donné de pénétrer ces livres. Donc, tant qu'un être n'a pas relié son être intérieur, qu'il est en réalité, tant qu'il n'est que dans son non-soi, c'est-à-dire les vies mineures de sa personnalité. Voilà. Pour faire une petite parenthèse, et pour que vous ayez une certaine vue des choses, le mental concret humain, que nous connaissons tous, l'intellect, est en réalité le mental composite de toutes les vies mineures de nos corps. Ce n'est pas notre mental. Je répète parce que c'est essentiel. Le mental concret de l'être humain est le mental composite de toutes les vies mineures de nos corps. Donc ce n'est pas notre mental. Le mental de la vie centrale que nous sommes est à deux niveaux. D'abord, le mental de cet être permanent, et ensuite l'accès au champ de conscience de la vie plus grande dans lequel nous sommes, comme toute vie en manifestation, puisque toute vie est un atome et un électron. Toute vie à ces myriades de vie, à quelques niveaux ce soit, hein, l'atome, il a ces myriades de vie qui s'appellent les ions, les électrons. Bon, eh bien, toute vie est un atome et un électron. Et donc, la marche en avant de l'éternel pèlerin, pour rester au stade de l'être humain, eh bien, c'est que celui qui donne sa vie à la planète nous attire vers ses champs de conscience. Sachez au fur et à mesure, quand vous avez dit on chemine, sachez vers quoi vous cheminez.
Je répète, parce que c'est capital dans la clarté de compréhension, notre intellect et le mental composite, le mental de toutes nos vies mineures, physique, émotionnelle, mentale. Ce n'est pas notre mental. Donc à partir de là, quand un être est en réalisation spirituelle, il lui faut la lumière de compréhension de son être intérieur. Et tant qu'il n'a pas cette lumière, pour des raisons qui seront bien définies, n'est-ce pas, eh bien, on lui parle une toute autre langue qu'il ne peut pas comprendre. Maintenant, comme nous sommes des éternels pèlerins, dans le processus de progression de champ de conscience en champ de conscience, à chaque fois nous avons un véhicule que nous devons épanouir, voire édifier. Ce véhicule a ses organes de réception qui font que ça ne sera pas facile par moment tant qu'un corps subtil ne sera pas pleinement épanoui. Parce qu'au même titre que l'être humain a dû édifier son corps physique et en apprendre la maîtrise, son corps émotionnel et en prendre la maîtrise, son corps mental et en prendre la maîtrise, il aura des corps subtils qu'il faudra aussi finir d'édifier, par conséquent, il y a des moments où il aura, excusez-moi l'expression, des blancs de compréhension. Alors, il ne faut pas que vous soyez à la fois désemparés et surpris, parce que c'est dans la logique même. Ce qui veut dire que ce qui vous sera donné, et qui a donc été reçu par Blavatsky et Bellé, et qui est donc à rassembler comme un pulse, c'est un pulse à 7 dimensions. Pour arriver jusqu'à la racine de vie. Alors, pour vous donner une idée de ce que cela signifie, la racine de la vie au stade humain fait partie de l'âme de l'homme céleste. Pour vous ayez un repère. Donc, quand vous allez entrer en conscience de ce que vous êtes en réalité, vous êtes en fait dans le champ de conscience de l'âme de celui qui donne la vie à la planète, donc de son être permanent. Je reprends. Un être, aujourd'hui homme céleste, donne la vie à la planète. Cet être se manifeste dans son monde, mais bien évidemment à un certain niveau vibratoire. Cet être, vous imaginez bien, a un champ de conscience bien au-delà de l'être humain. Mais quand un être, parce qu'il aura à travers ses vies, à la fois quitté la dépendance de ses vies mineures, puis acquis la maîtrise de ses mondes, dont il avait la charge, donc ses vies mineures. Ce qui veut dire que, 1, il gère avec intelligence, 2, il gère avec juste relation. La sagesse, c'est l'énergie d'intelligence fondue avec l'énergie d'amour. Quand un être est arrivé à pratiquer de la sorte, donc de juste relation, il est dans la nature de ce qu'on appelle l'état christique. Mais là, il est dans ce qu'on appelle l'aspect fils. Quand il fait les pas en avant, ce qui veut dire qu'en conscience, il sait qu'il tend vers celui qui lui donne la vie le mouvement est l'être. Il doit donc intégrer le champ de conscience de cette grande vie. Là, nous ne sommes plus dans l'intelligence comme telle, nous ne sommes plus dans l'amour comme tel, puisque cette grande vie, ces deux aspects sont pour lui des instincts. C'est-à-dire que naturellement, il se vit comme ça. On nous dit que l'être humain, bien avancé, il fait tout, je dirais, instinctivement avec intelligence. Quand il l'a fait avec juste relation, il est en état christique. Et puis, il réalise qu'il doit aller vers une autre dimension qui caractérise celui qui donne la vie à la planète. Et il réalise qu'il appréhende une nouvelle énergie qui caractérise l'aspect père et qui est liée à la volonté, laquelle émane du dessein de cette grande vie. En d'autres termes, pourquoi cette grande vie a créé ce monde de manifestation? Quel dessein poursuit-il? Ce dessein va se traduire par une volonté. Eh bien, il y a une nuance fondamentale entre l'intelligence et l'amour, et bien sûr entre la volonté de bien de l'ensemble. Celui qui donne la vie à la planète a comme caractéristique fondamentale le bien de l'ensemble. Et vous pouvez entrevoir la différence entre « je ne fais pas à autrui ce que je n'aimerais pas qu'autrui me fasse »,« je fais à autrui ce que j'aimerais qu'autrui me fasse », d'accord ? Mais ça, on est encore, comme on dit, dans un schéma relationnel individualisé. Tandis que là, c'est tout est pensé d'abord pour le bien de l'ensemble. En vous évoquant cela, parce qu'il y a, comme dans tout groupe qui chemine, même si les êtres, comme on dit, ils marchent ensemble, il y a des êtres qui sont, en tant qu'êtres, plus âgés. Donc, certains vont être à appréhender l'accomplissement de la sagesse, d'autres vont aspirer à l'horizon devant. Et cet horizon devant repose sur l'intégration de la volonté du bien de l'ensemble, ce qui permet à un Christ de vous dire « Celui qui me voit, voit le Père. » Parce que je pense le bien de l'ensemble. Dans la traversée du règne humain, il y a des prises de conscience successives au fil des vies. À un moment donné, l'individualité de conscience permet à cet être de dire « je pense, donc je suis ». Puis, il va avancer et un jour, dans sa réflexion et dans le ressentir de son être intérieur, il pourra dire symboliquement « je suis cela ». Donc, la vie. Quand il aura progressé encore à l'éclairage de son être intérieur, il devra dire, il dira « j'ai à devenir ce que je suis ». Pour qu'un jour, à la porte de sortie du règne humain, il dira comme tout sage accompli, je suis devenu ce que je suis. Ces progressions de conscience et de réalisation attendent tout être qui chemine. Ce que nous devons retenir, c'est qu'à travers tous les univers, il n'y a qu'une seule vie. Ce qui veut dire que nous sommes tous potentiellement égaux, que nous avons tous notre racine de vie dans l'absolu, et que par conséquent, nous avons la maîtrise de notre destin à tout jamais. Mais bien évidemment, l'absolu n'émet pas des vagues de vie au hasard, et que chaque vie porte en elle un dessein, et que par conséquent, elle détient une merveille qui lui est propre, qui un jour jouera dans la symphonie des sphères, et que par conséquent, cette richesse s'appelle la diversité. Imaginez la tristesse si, dans notre unité fondamentale, on était tous uniformes. En d'autres termes, comprenons que dans ce chemin de réalisation, eh bien, nous sommes maîtres de notre destin. Alors, ce que je voudrais souligner sur mes propos préalables, c'est que, un, quand un être chemine dans le fait de s'épanouir en sagesse, donc intelligence et amour, il est en chemin de spiritualité. Mais pour ceux qui appréhendent l'horizon suivant, le fait d'intégrer le champ de conscience du Père et par conséquent de s'identifier à lui avec humilité, respect et bien sûr sagesse, ce chemin-là est le chemin du divin. Vous voyez bien la différence entre les deux. La spiritualité, c'est l'usage de l'intelligence et de l'amour. Le chemin du divin, c'est l'accomplissement de la volonté du Père de servir son dessein, et par conséquent, c'est lié à l'énergie de volonté. Ce que je voudrais que vous compreniez, c'est qu'en fait, ce processus s'inscrit dans la nature de l'évolution de la vie. Une des choses venir conforter la conscience de tous les êtres qui cheminent, c'est qu'ils ne sont pas bizarres ni anormaux. Ils ne doivent pas se dire « je ne suis pas comme les autres ». Non, simplement, pour l'instant, si vous voulez, c'est une vague qui est en train d'émerger de l'humanité dans sa phase lunaire, et par conséquent, non. C'est un processus qui s'inscrit tout à fait naturellement dans l'évolution. Donc il faut être rassuré là-dessus.
Quand vous parlez de volonté, la volonté, parce que ce fait de pouvoir, avec humilité, être dans le divin, complètement, ça implique un lâcher-prise.
Ça implique symboliquement ce que veut dire la main du Père. Au même titre que vous, quand vous êtes venu sur cette terre, vous avez pulvérisé votre vie pour les myriades de vies mineures qui constituent vos corps. Si je vous chatouille de votre pied, vous le sentez. Donc ça veut dire, si vous voulez, que vous êtes la vie centrale de toutes ces vies. Eh bien, cette grande vie qui donne la vie à la planète a pulvérisé sa vie pour toutes les vies mineures qui viennent constituer son monde de manifestation. Ce qui veut dire qu'en fait, cette vie est en nous. Nous avons d'un côté notre vie propre, mais nous sommes inclus dans un plus grand atome, n'est-ce pas, la manifestation. Et à partir de là, lui, en tant que vie transcendante, si vous voulez, son rôle, son contrat de vie, c'est de nous élever au point de départ futur qui est le nôtre, c'est-à-dire l'évolution cosmique. Il nous faut donc, les termes sont des prisons à idées, donc c'est impropre. Ce qui veut dire, c'est pour ça que j'ai souhaité marquer des pauses, parce qu'il faut bien comprendre, et puis nous sommes quand même à une ère pionnière, donc on n'a pas encore les termes qui soient, comme on dit, avec précision. Nous avons à nous identifier avec cette grande vie. Parce qu'en fait, il n'y a qu'une seule vie. Ce qui veut dire, si vous voulez, que si nous prenons la vie, on va dire, au plus lointain, à l'extrême compréhension d'un mental qui est le nôtre, nous allons jusqu'à une vie qui donne vie à cet univers. Cet univers, chaque univers, c'est sept systèmes solaires, vous voyez, donc, Eh bien, depuis cette source de vie infiniment évoluée, dont la racine de vie est dans l'absolu, ce qui permet, entre guillemets, à l'absolu de dire, ayant créé cet univers d'une poussière de moi-même, je demeure. Eh bien, en fait, si vous voulez, toutes les vies ont leur racine de vie dans l'absolu, mais par le fait même, elles sont entraînées dans un champ de manifestation où les vies plus avancées incluent, et puis ainsi de suite. Bon, alors, ça veut dire que, eh bien, pour nous identifier avec cette grande vie, il faut que l'on en comprenne, un, le dessein, deux, l'intention, trois, le stade où on en est, donc le plan. Où en est son chantier?
Ça nous demande une abstraction de nos vies multiples. Là.
Si vous voulez que ce cercle que la Providence a réuni, il n'y a pas de hasard, eh bien, venez en tant qu'être et laissons notre personnalité au bestiaire. Ce qui, pour l'instant, entrave, plombe ces démarches naturelles de rencontre, puisqu'en fait, si vous voulez, ça veut dire quoi? Ça veut dire que des êtres n'avancent plus dans leur séparativité, leur individualité de conscience, n'est-ce pas, du lunaire, mais viennent en tant qu'être, donc en tant qu'âme. Les vies que nous sommes ne connaissent pas la séparativité dans notre réalité là-haut. Bon, eh bien, à ce moment-là, la tentative, si vous voulez, aujourd'hui, c'est de dire, on se retrouve en tant qu'être, on laisse nos personnalités au vestiaire, parce qu'autrement, si vous voulez, ces personnalités, ça va donner rivalité, critique, vous voyez. Or, volonté du Père, comment l'appréhender? Alors, vous allez me dire, en personnalité, la volonté, c'est le dominant, le dictateur, n'est-ce pas? Bon, dans la dimension divine, la volonté, c'est je suis le serviteur de la vie. C'est pour ça qu'il y a 2000 ans, le grand guide vous dit, je suis le serviteur des serviteurs. Oui, ça veut dire qu'en fait, eh bien, quand l'être aspire à être ce qu'il est, il n'est plus que le serviteur de la vie. Alors, il y a deux façons, si vous voulez, d'avancer. Soit en luttant contre ces vies mineures, soit en se remettant dans la main symbolique de celui qui donne la vie à la planète. Et à ce moment-là, cette énergie que vous attirez à vous, vous allez au Père, il vient à vous, il réduit, comme on dit, le feu des lunaires. Dans la traversée du règne humain, vous avez des repères très symboliques. Asservir, se servir, servir. Si vous regardez un être humain dans son évolution, il va passer par là. Donc on doit avoir l'humilité de se dire on est tous passés par là. Asservir, se servir, bien sûr c'est pas nâcher après, hein, ça on peut pas nâcher. Mais aujourd'hui, si vous voulez, des êtres commencent à aspirer au troisième aspect, de servir la vie. Voilà. Voilà. Alors, si vous regardez l'humanité, eh ben, vous avez déjà des dominés, des dominants et des serviteurs. Mais servir, c'est penser le bien de l'ensemble. Alors, il y a une pratique très simple, si vous voulez, c'est de mettre une tarte au milieu de la table. Donc, en fait, si vous voulez, c'est très simple, et en théorie très simple, et en application très ardue. Si vous regardez, il y a pas mal d'astrologues parmi vous. Alors, vous avez eu l'influence, si vous voulez, pour comprendre, n'est-ce pas? Donc vous avez un ensemble de vie qui impressionne notre petite planète, et bien sûr notre humanité. Eh bien, l'ère du bélier, si vous voulez, a sensibilisé ces vies humaines à l'aspect troupeau, c'est-à-dire de vivre à ça. Ensuite, l'ère du poisson, ça a été de faire émerger l'individualité de conscience, qui, dans le monde où l'on est malheureusement, a donné la séparativité et par conséquent, essentiellement, moi, je, centre du monde. Bon. Aujourd'hui, l'ère du ver se lève, le soleil s'est levé depuis 150 ans, eh bien, vous avez la conscience de groupe. Donc c'est tout à fait normal que des êtres soient en ressentir. Voilà. Alors, ce qu'il faut quand même intégrer, c'est que notre réalité future, c'est de vivre dans cet espace de vie où les centres d'énergie sont partout et la circonférence est nulle part. Et cela veut dire que, en fait, la solution fondamentale, c'est bien de l'ensemble. Après, autrement. Autrement, aujourd'hui, le constat, il est suivant. 80% des biens de l'humanité sont possédés par 20% des biens des humains. Et sur ces 20%, 20% possède encore 80% des 80%. Donc, si vous voulez, c'est ça, c'est ce qui a fait que. Voilà. Et vous avez le drame originel, c'est-à-dire l'accumulation des biens et des richesses.
La méditation de transmission, c'est donc servir.
Ce que je transmets, vous le retrouverez dans Gelé et Blavatsky. Quand un être est arrivé à l'état christique, c'est-à-dire qu'il fait usage, il faut asseoir naturellement les réalités. Il ne faut pas être là à dire c'est inaccessible. Quand un être pratique la sagesse, c'est-à-dire il fait avec intelligence et juste relation, il est en état christique. Christ, c'est une fonction qui, dans l'évolution planétaire, assume le rôle de grand instructeur de l'humanité en question. Mais l'état christique, si vous voulez, un Christ, tout être doit, venant un être de lumière, c'est-à-dire étant ce qu'il est en tant qu'âme, quand il est réalisé sur Terre, donc quand sa personnalité a fusionné avec son âme, eh bien, il est un Christ, il est en état christique. C'est pas quelque chose, si vous voulez, d'exceptionnel et d'unique. Il n'y a qu'une conscience séparative qui va vous dire il n'y a qu'un fils unique. Bon. À partir du fait qu'un être est en pratique de juste relation, il tend vers le Père. Et à partir de là, quelle est la particularité vers laquelle il tend quand il accède à pratiquer, d'accord, conformément, il va semer dans le mental humain. Je répète, quand un être pratiquant de justes relations veille au bien de l'ensemble, eh bien, si il est attentif à ne plus polluer, c'est-à-dire laisser ses vies mineures le mener. À ce moment-là, il effectue un processus qui est de dire « je veille à ne rayonner que de l'énergie positive ». Quand il arrive à ce stade, celui qui est en lui ouvre la porte. Et à ce moment-là, le processus de sa pensée, si vous voulez, illumine le mental humain. Vous avez là des objectifs qui sont devant chacun. Mais bien évidemment, la vie est sous haute surveillance. Ce qui veut dire, si vous voulez, que cette vie est sous, la vie terrestre est sous contrôle et que par conséquent, comme on dit, rien n'est autorisé qui puisse perturber les réalités subtiles. La tentative, si vous voulez, du négatif en son temps, parce qu'il faut savoir qu'à la suite des erreurs de l'humanité, le mal cosmique a pu taper, et bien sûr, il a été accompagné de frères noirs cosmiques. Ils se sont dit, on va essayer d'emprisonner la Terre et de la servir. Et par conséquent, aujourd'hui, si vous voulez, nous n'en sommes plus là, à savoir que le processus d'inversion des choses est bien en marche et que par conséquent,
ce qui importe maintenant, c'est de libérer l'être humain de la prison du négatif dans lequel il est tombé. Ce qui veut dire, si vous voulez, que quand vous observez d'une façon ou d'une autre, soit par les médias, soit par la lecture, soit par la vie courante, vous pouvez, comme on dit, générer une énergie positive. Tout le but du livre de la connaissance, du livre de la sagesse, du livre de la vie, c'est d'amener les êtres à être une fontaine de vie consciente. Ce n'est pas pour vous remplir la tête, parce que vous comprenez, mais simplement pour que vous appreniez à être pleinement ce que vous êtes de toute éternité. C'est le but fondamental de ce qui sera transmis, si vous voulez, dans les cours. Point de question.
Pas besoin de questions, c'est un bon rappel de une mise en place de toutes les biens.
La chose, si vous voulez, ce qu'il faut comprendre, c'est que la traversée du règne humain, ça implique en réalité deux règnes. Le quatrième règne, qui est le chemin de l'aller, et dont l'aboutissement est l'édification de la personnalité, c'est-à-dire des corps qui constituent notre manifestation. Donc, plein fonctionnement du corps physique, du corps éthérique, du corps émotionnel, du corps mental. Quand la vie humaine, dans sa traversée, arrive en disant « moi, je, centre du monde », il est la porte de sortie du quatrième règne. Et son être intérieur dit « ah ben, on va pouvoir peut-être commencer à s'occuper de Cain ». Maintenant qu'il est en état de marche. Et donc vous allez avoir la période de ce qu'on appelle symboliquement l'enfant prodigue, qui va dire, mais pourquoi je suis arrivé dans cette situation? Ce qui va lui permettre de réaliser qu'il y a des lois naturelles de la vie, dont l'une est bien sûr la loi de renaissance et la loi de rétribution, communément appelée loi de karma. Bon. L'être va ressentir la présence de ce qu'il est en lui, et vous allez avoir la période mystique. La personnalité est éblouie, si vous voulez, par cette lumière supérieure, et il est en adoration en disant « il y a autre chose ». Et puis, il va réaliser que il faut qu'il cesse de dépendre de sa nature. Donc il va avoir à franchir la non-dépendance du corps physique, donc des appétits physiques. Puis, il va avoir à franchir la non-dépendance des passions et pulsions émotionnelles. Et à chaque fois, un cran est accentué sur le corps d'en dessous. Puis, la non-dépendance à la pensée unique, aux formes pensées. Puis, il atteint le stade de la maîtrise. Hein, il y a une différence entre la non-dépendance et la maîtrise. À partir de là, quand il peut réellement dire « je maîtrise mes vies mineures de mes corps », eh bien, il devient un maître. L'appellation maître n'a d'autre fondement que ça. Il maîtrise ses vies mineures. Donc, il est maître du chantier. Là. Et va venir pour lui, si vous voulez, le processus. Donc, quand il est à la non-dépendance du corps émotionnel, il rentre dans le cinquième règne. Pour vous situer. Non-dépendance du corps émotionnel, il rentre dans le cinquième règne. Le règne des âmes. Et il va falloir qu'il traverse le cinquième règne pour sortir du règne humain. Cette traversée va être en trois stades. Premier stade, la maîtrise. Deuxième stade, l'adepte de la loi, c'est-à-dire qu'en fait, il est la voie, le bon chemin. C'est en cela que le chemin que vous menez, en fait, c'est vous-même. Vous cheminez, vous êtes la voie. Parce que en avançant sur le chemin, en fait, vous vous réalisez comme tel. Et puis, quand vous pourrez dire,
je suis devenu ce que je suis, la porte s'ouvre de sortie du règne humain. Et c'est là où tous les sages tournent le dos à la maison du Père en disant « Je rentre pas parce que le travail n'est pas fini. » Mais certains peuvent en sortir, ils sont libres.
Vous pouvez parler un peu plus au niveau des émotions et avant le cinquième règne.
Alors, quand nous traversons, quand l'être humain traverse, il a d'abord, vous avez eu en fait ce qu'on appelle les races. Quand l'être, en tant que grande vie, descend dans la matière, donc dans les vies mineures pour l'élever au ciel, il descend jusqu'à l'incarnation physique. Cela s'est passé il y a 18 millions d'années, deuxième moitié de la troisième race, n'est-ce pas ? Adam et Ève, donc incarnation physique. Pendant cette période, écoutez bien, les êtres humains qui maîtrisaient le corps physique sortaient du règne humain. Donc il faut comprendre la difficulté de l'époque. Hein. Vous avez eu ensuite l'époque Atlante, quatrième race. Là, développement du corps émotionnel. Bon. Ça a été bien jusqu'au jour où il y a eu exagération, c'est-à-dire, si vous voulez, accumulation de biens, de richesses, et puis ce que ça signifie derrière. Hein. Il n'y a pas que le bien matériel. Bon. Eh bien, à partir de là, il y a eu développement des passions et des pulsions émotionnelles, alors que, en fait, si vous voulez, ça a été tellement agité, tellement dans tous les sens, ça a été des cavales, de telle manière qu'en fait a émergé l'astral. Qu'est-ce que l'astral ? L'astral, c'est une invention de l'humanité. Retenez bien ça. C'est quoi l'astral ? Vous avez le plan physique, que nous connaissons terrestre. Vous avez le plan astral, le plan mental. D'accord ? Dans la réalité, la partie inférieure du plan mental devait fonctionner comme bande de sensibilité. C'est-à-dire, je perçois toutes les nuances, toutes les subtilités des relations, mais je ne m'agite pas pour autant. Et puis l'homme...
Il y avait maîtrise.
C'était à l'état latent. Donc on ne peut pas dire que c'était maîtrise, il fallait le développer. Mais il fallait surtout, comme on dit, ne pas partir à le développer à l'exagération. Alors évidemment, l'exercice était éminemment difficile, puisque c'est la bande sensible. Bon, mais vous allez voir ce qui se passe actuellement. Alors, cette partie inférieure du mental devait fonctionner comme plaque sensible. Et puis en fait, c'est devenu, alors les passions, les pulsions, tout ça, si bien que l'astral, c'est une bande de toutes les pollutions, méchanceté humaine. Oui ? Bon, alors bien sûr, il y a le haut astral, où là, c'est tout ce que l'humanité, les hommes aspirent, mais ce n'est pas encore, comme on dit, la finalité. Alors, bien évidemment, qu'est-ce qui va se passer ? Comme la vie humaine a développé ça, eh bien, les sages transforment ça en imagination créatrice. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? Aujourd'hui, vous avez la partie supérieure du mental concret qui est en train d'être en escroissance comme il y a eu la partie inférieure sensible. C'est l'hyper-mental. Tous ceux qui se lâchent, vous voyez, oh là là, ma tête, j'en peux plus, quelle mémoire, quelle bibliothèque, c'est malheureusement le piège qui est tendu aux technocrates et à ceux qui n'en peuvent plus d'agiter leur mental. C'est le piège. Et ce piège est terrible parce que s'il était développé, s'il était lâché, ça, s'il était répandu, eh bien là, on aurait la séparation totale avec l'âme. Donc avec l'être que nous sommes. Donc ce serait une humanité perdue. Oui. Donc ce ne sera pas le cas. Mais c'est pour vous montrer que il faut appréhender. Et appréhender, il faut le faire avec une approche judicieuse. Alors je reprends. Donc vous avez la non-dépendance et ensuite la maîtrise. Et puis après, quand vous devenez serviteur, vous êtes adepte de la loi, c'est-à-dire vous servez les lois de la vie que vous appréhendez. Et puis, à un moment donné, les grandes vies qui sont au-dessus de nous, et notamment la grande vie, elle peut s'exprimer parce qu'elle a une belle maison. Nous avons chacun à faire une belle maison. Mais il n'y a rien d'étonnant qu'à partir de là, une vie plus avancée, une vie grandiose, dise moi j'ai à impressionner, à délivrer, j'ai à délivrer un message, vous, à l'être simplement de rester totalement humble. Comment dire, il faut faire attention aux mots. Parce que si on parle Dieu, divin, donc des termes religieux, là il y a un côté d'adoration. Mais si on parle de vie ou d'énergie, tout ça reprend une dimension, je dirais, un peu plus naturelle. Si vous dites à quelqu'un « t'es la vie », je suis la vie. Si vous lui dites d'une façon préemptoire « parce que t'es Dieu », forcément que, comme on dit, il va mesurer les kilomètres qui le séparent. À ces rendez-vous, ce sera pour vous faire appréhender ce qui est dans les livres de Bélé Blavatsky, en sachant que pour surfer dans ces livres, à raison d'un travail au quotidien de 2 heures, compte tenu de vos obligations du quotidien et tout, il faut 21 ans à peu près pour surfer dans Bélé Blavatsky. Or, le but, avec ces réunions, en 7 ans, vous aurez rassemblé tout le pulse que n'importe quel être en réalisation de la vie lui est, comme on dit, opportun d'avoir, de connaître. Comme ça a pu vous être communiqué, la première année, nous appréhenderons l'absolu, les âges d'évolution. Bien évidemment, notre âge physique, notre corps physique, il a un âge, mais ce n'est pas l'âge de notre être intérieur. Les âges d'évolution dans le règne humain, les différents plans de manifestation, le parcours humain, les 12 observances, au même titre que la personnalité avait 12 commandements à, acquérir, donc à mettre en pratique, et bien là, vous avez, pour l'être que nous sommes, il y a 12 observances qui sont éparpillées, bien évidemment, dans Bélé. Vous avez l'être du cinquième règne, la fontaine d'énergie, ce que je vous ai évoqué tout à l'heure, à savoir que la finalité, c'est d'être une fontaine de vie. La science de la méditation, en vous précisant que lorsque vous développez le fil conducteur sur un sujet, en raisonnant, en traitant donc, on va dire, un dossier, quel qu'il soit, en fait, vous avez un processus naturel méditatif. Donc, c'est un fil conducteur, là. La caractéristique de la méditation dans sa dimension spirituelle ou divine, c'est, en fait, non plus de faire une analyse sur le mental horizontal, même s'il est en mental supérieur, mais en alignement vertical. En d'autres termes, cela vous permet d'aller à la rencontre de l'être que vous êtes et au-delà, aller au Père et le Père vient à vous. Donc aller à l'être qui donne la vie à la planète et il viendra à vous. Et il faut faire tomber les voiles artificielles qui font penser que tout ça n'est ni accessible, ni réalisable. Il y a eu, voyez-vous, chez des êtres qui se sont avancés, et notamment chez les dévots, il y a eu une attitude de sérieux à l'excès. Je veux dire par là, pour vous donner une image, aujourd'hui, les êtres se représentent le Père d'abord en image physique, humaine, mais aussi comme un vieillard à la barbe longue, très âgé, très sévère, autoritaire et autres. Quand il prend une apparence, le père est un adolescent de 16 ans, très joueur, très sérieux dans ce qu'il a à faire, mais qui apprécie beaucoup l'humour, la gaieté, la jeunesse et la finesse d'esprit. et pour faire tomber des images d'Épinal. Et les prises de conscience liées aux différents plans et leur intégration. Voilà. Ce qu'il faut savoir, si vous voulez, c'est que un globe, un plan, est la concrétisation d'une pensée. Quand une grande vie, quand une grande vie se projette, elle projette sa pensée dans les robes de l'espace, abstrait, absolu. Et au fur et à mesure que ce feu descend dans les robes de la mer, il y a densification et jusqu'au plan terrestre. En d'autres termes, ce monde terrestre est la matérialisation d'une pensée à la fois d'un grand être, mais aussi de ses fils. Parce que quand le Père, celui qui crée la planète, projette sa pensée, il se projette dedans. Et le Père en manifestation est le Fils, qui doit devenir l'époux de la mère, restaurer la maison, et ensuite être le Père. Vous avez, par le fait même de la pensée créatrice, vous avez comment se manifestent les mondes. Ce qui veut dire que collectivement, l'humanité a en charge ce monde. Et quand il pense mal, il désertifie le monde. L'écologie n'est qu'un premier pas, un tout petit pas, vers la bonne direction. Mais il faut que l'homme cesse de faire pipi partout. Parce que le pire, c'est mentalement. Ce qui veut dire que, pour parler à chacun, votre pensée détermine votre futur, conditionne vos corps, et vous irez dans ce que vous avez pensé. Alors, pour vous donner une perspective divine, celui qui donne la vie à la planète n'use que du vrai, que du beau, que du bien. Ce qui veut dire que quand vous appréhendez le concept du vrai, du beau, du bien, vous jouez avec de l'énergie divine. Dans la traversée du règne humain, vous avez d'abord à clarifier les vies mineures de vos corps, c'est-à-dire de cesser de nourrir la volonté de leurs désirs. Comment se manifeste une vie mineure? Par le désir. Quand vous faites la volonté de ces vies mineures, vous, non seulement les nourrissez, mais vous ouvrez la porte au club de l'Utah. Donc comprenez que quand un être se laisse aller, par exemple, à l'alcoolisme, et bien plus il boit, plus il fait rentrer les lutins d'alcool, et forcément les lutins, ils occupent la baraque. Donc, dans la non-dépendance, vous avez le processus de transmutation, c'est-à-dire à ne plus nourrir vos faiblesses. Puis, dans la transformation, à la place du lutin, de la méchanceté, vous allez user du lutin, de la fraternité, de la douceur. À ce moment-là, vous faites venir des vies mineures de ces plans qu'on appelle le vrai, le beau, le bien. Et c'est ainsi que ce monde deviendra lumière. Ce qui veut dire que le vrai, le beau, le bien, c'est de la substance lumière dont sera construit le monde futur, si des êtres usent de cela. Ce qui veut dire que nous sommes à la fois, si vous voulez, sur la voie, mais nous sommes la voie. Voilà, donc je pense vous avoir donné des repères de ce que la très grande majorité d'entre vous pratiquait en instinct spirituel depuis longtemps. Il est bon simplement de voir clair dans le parcours et son horizon. C'est le chemin le plus difficile qui soit. puisque c'est ce qui amène l'être humain à la porte du sixième règne, à la porte de sortie du règne humain. Au-delà, vous avez ce qu'on appelle les sept sentiers cosmiques, c'est-à-dire sept lignes du futur pour servir la vie dans ses différentes évolutions. Et ça sera abordé un jour dans les cours. Je terminerai en vous disant ceci. Apprenez à rayonner et non plus à raisonner. La finalité, c'est pas d'avoir raison et de ne pas avoir tort. La finalité, c'est de n'user que de penser dans le vrai, dans le beau, dans le bien. Quand l'être sait faire ça, il rayonne, il éclaire le mental humain, et peu importe où il est, il sert la vie. Peu importe ce que vous faites. S'il y a quelque chose que vous n'aimez pas, comme par exemple faire les poussières, que vous le faites en chignant, comme on dit, vous êtes un être ordinaire. Mais quand vous dépassez cela et que vous restez en positif, eh bien, vous rayonnez. Ce qui veut dire que rayonner, c'est laisser la porte ouverte au Père. Alors le Père, bien évidemment, c'est une appellation, parce qu'entre lui et nous, eh bien, il y a des vies qui sont en échelle d'évolution. Est-ce que vous comprenez? Mais c'est pour employer des termes simples. Ce que je voudrais vous faire saisir, c'est que plus une vie est avancée dans l'évolution, plus elle a conscience qu'il n'y a qu'une seule vie, et par conséquent, une grande vie vous dirait « mon enfant, mon frère ». Est-ce que vous voyez la subtilité de son contact? Parce que il sait qu'en chaque être, il y a une seule vie. Voilà.